Bonjour à tous, aujourd'hui un podcast pour vous expliquer de façon plus approfondie la dépression, l'addiction et la perversion en utilisant le stress disorder et en vous rappelant le bon fonctionnement du Happy Power et les dysfonctionnements du stress disorder. Donc pour ce faire, je vais d'abord vous rappeler les bases en termes de schéma de fonctionnement de la satisfaction des besoins, c'est-à-dire le Happy Power, et les bases en termes de dysfonctionnement mémoréactionnel ou psychocorporel, c'est-à-dire les dimensions du stress disorder. Et puis après, je vous expliquerai les particularités de la dépression, de l'addiction et de la perversion avec cette grille d'analyse, donc des dysfonctionnements du stress disorder. Donc, lorsque tout fonctionne bien dans notre structure biologique universelle, et lorsque la satisfaction de nos besoins se fait de façon normale et naturelle, le schéma de fonctionnement est le suivant. Nous avons d'abord le pouvoir de bien sentir avec cinq sens, le pouvoir de bien réfléchir avec sept émotions, le pouvoir de bien agir avec trois stress et le pouvoir de bien nous souvenir avec un circuit de la motivation mémoréactionnelle. Je vais vous expliquer ça de façon plus détaillée, d'abord en termes de schéma de fonctionnement, de la satisfaction de nos besoins et de la gestion de nos ressources. Donc le pouvoir de bien sentir. Nous avons cinq sens normalement qui nous permettent de gérer la perception interne de nos besoins et l'observation externe de nos ressources ou solutions pour recharger nos batteries, c'est-à-dire pour trouver de l'eau, de l'alimentation, satisfaire nos besoins. Pour rappel, il y a 350 besoins humains universels qui sont universels dans le sens où on a tous besoin d'aller aux toilettes, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de dormir, on a tous besoin de boire, mais on ne va pas boire la même chose. Par exemple, certains vont boire du thé, d'autres vont boire du café. On ne va pas manger la même chose. Par exemple, certains vont manger du riz, d'autres vont manger des pâtes. On n'a pas besoin et on ne dort pas dans les mêmes structures. Je vais dire ça comme ça. Certains dorment dans des hamacs et certains dorment dans des lits en plumes ou des lits en bambou. Je vais dire ça comme ça, comme ça à titre d'exemple. Donc on a des besoins universels, mais on a des façons de les satisfaire qui vont être différentes. C'est dans ce sens-là qu'on parle d'universalité des besoins avec 350 besoins humains. Donc on a cinq sens qui nous permettent donc de percevoir en interne nos besoins et qui nous permettent en externe d'observer les solutions ou les ressources disponibles. Donc les cinq sens fondamentalement vont nous permettre en fait de gérer nos forces, nos faiblesses et nos rapports de force pour savoir en quoi nous sommes pour gérer nos rapports de force pour savoir en quoi nous sommes en position de force ou en capacité pour agir. Donc nos cinq sens fondamentalement, ils nous permettent en interne de gérer nos besoins et de prendre conscience de nos manques. Et en externe, ils nous permettent de mesurer nos capacités et de trouver des ressources. Donc ça, c'est pour le pouvoir de bien sentir. Le pouvoir de bien réfléchir, il est lié à sept émotions qui nous permettent de gérer les opportunités, les menaces et les risques. C'est-à-dire qu'en fait, les sept émotions universelles, qui sont l'amour, la colère, le dégoût, la honte, la joie, la peur et la tristesse, nous permettent fondamentalement, en fait, de nous orienter en termes d'intelligence émotionnelle pour choisir les meilleures options, les meilleures solutions et faire les meilleurs choix en termes d'opportunités, de menaces et de risques. Par exemple, la peur va nous signaler le danger, l'inconnu et va nous dire attention, ça c'est dangereux, attention, là il y a un risque, etc. Le dégoût va nous dire attention, là il y a un risque d'empoisonnement, là il y a un risque de saturation, d'abus. La colère va nous dire attention, là il y a une injustice, attention, là il y a un déséquilibre dans le donner-recevoir, c'est-à-dire dans la justesse au niveau du manque dans le cadre de nos besoins et de nos relations. Voilà à titre d'exemple pour les sept émotions. Donc nos sept émotions, elles sont importantes pour prendre nos décisions. Et dans le cadre de la satisfaction de nos besoins et de la gestion de nos relations. Par rapport à ça, il est important de savoir que la colère, la peur et le dégoût vont être importantes pour la gestion saine de nos besoins et la tristesse, la peur et la honte vont être importantes pour la gestion saine de nos relations. Voilà pour le pouvoir de bien réfléchir et les sept émotions normales et naturelles. Ensuite, vous avez le pouvoir de bien agir avec trois stress. En anglais, on dit fight, flight, freeze, ce qui peut se traduire par affrontement des choses, évitement des choses ou figement des choses. Et donc là, on a trois comportements de base dans notre fonctionnement qui sont, un, aller au contact des choses positives, c'est-à-dire que on a repéré avec nos cinq sens et nos sept émotions les ressources positives, les opportunités, et ensuite, avec le stress, on va aller au contact des choses positives, première option, donc le fight, aller au contact des choses, affrontement des problèmes, ou affrontement positif des choses, ou résolution positive des choses, donc aller au contact des choses. Ensuite, il y a éviter le contact négatif, donc éviter les choses qui sont négatives, les ressources toxiques, par exemple, qu'on a repérées grâce à nos émotions et à nos cinq sens. Et ensuite, on a donc le figement, qui naturellement correspond en fait à la mise au repos pour recharger les batteries. Lorsqu'on manque d'énergie, lorsqu'on n'est pas en capacité d'agir parce qu'on manque d'énergie, qu'on a les batteries à plat et qu'il vaut mieux aller se coucher pour se ressourcer. Voilà essentiellement pour les trois stress. Ensuite, vous avez donc un pouvoir de bien se souvenir avec un circuit de la motivation qui permet de distinguer le plaisir des choses et la douleur des choses et qui donne une récompense ou une gratification, une reconnaissance en termes de stimulation positive, lorsque on a une expérience qui est positive, qui est satisfaisante. Et donc, en fait, on va intégrer l'expérience, ou bien on va se souvenir de l'expérience pour la répéter, avec une stimulation positive lorsque c'est à refaire, et une stimulation négative lorsque c'est à éviter. Donc, par rapport à ça, en fait, il faut bien être à l'écoute de la douleur des choses pour ne pas répéter les choses qui vont être toxiques, destructrices, etc. Un truc, par exemple, un exemple très très simple pour que vous compreniez ça. Si vous buvez ou si vous fumez, vous allez vous apercevoir qu'au fond, si vous êtes bien à l'écoute de votre corps, vous allez vous apercevoir qu'au fond, en fait, c'est pas bon pour vous parce qu'il y a un certain dégoût, une certaine douleur, en fait. Quand vous buvez trop, et votre corps, en fait, vous dit que c'est pas bon pour vous, que vous êtes en train de vous empoisonner. Mais il va y avoir une drogue qui va perturber en fait la perception et qui va vous rendre accro. Et donc il va y avoir des perturbateurs de la perception qui vont en fait vous biaiser le schéma que je viens de vous expliquer, le schéma de satisfaction de vos besoins. Et donc si vous êtes vraiment bien à l'écoute, en fait, vous pouvez recadrer les choses et vous à l'écoute de votre corps et recadrer les choses et vous apercevoir qu'au fond il y a une certaine toxicité que vous percevez, il y a une certaine douleur que vous percevez, et ça, vous pouvez l'intégrer au niveau de votre cortex, réfléchir davantage et prendre le bon con et choisir la bonne option pour éviter le contact avec les choses. Voilà une petite illustration pour vous expliquer le schéma de fonctionnement normal et naturel. Quand le schéma de fonctionnement est dysfonctionnel, on parle de stress disorder, c'est-à-dire qu'on parle d'impact du stress sur ce schéma de fonctionnement. Donc le stress disorder en anglais, c'est dissociative disorder pour le premier élément, c'est false belief, c'est compulsive behavior et c'est denial. Je traduis. Le stress, les désordres du stress, en fait, on connaît leur impact aujourd'hui et en fait, ça va être en termes de dysfonctionnement. 1. La dissociation, c'est-à-dire la déconnexion des cinq sens, grosso modo. 2. Ça va être le biais cognitif, c'est-à-dire la mauvaise interprétation des sept émotions et les fausses croyances, les fausses interprétations par rapport au pouvoir de bien réfléchir. Ensuite, ça va être la compulsion, compulsive behavior, avec la perte de liberté de s'abstenir et des schémas répétitifs, c'est-à-dire des choses prévisibles qui vont se répéter dans la toxicité, la destructivité, parce qu'il y a un bug en fait, et qu'on sait que la personne ou que la situation est biaisée ou buggée, et donc les choses vont se répéter. Et puis il y a le denial, c'est-à-dire le déni, l'amnésie de la douleur, le mépris de la douleur, des blessures, qui fait que on est dans une perte de conscience des choses, on est dans un déni des blessures du passé, on est dans un mépris des réalités, des manques, des chocs, des abus, des négligences de l'enfance. Et en fait, on a des gens blessés ou des gens stressés qui vont répéter en fait des dysfonctionnements liés à ce que j'ai appelé donc le stress disorder ou les désordres du stress. Donc l'impact du stress, les réalités du stress ou l'impact des émotions, la réalité de l'importance des émotions, elle est scientifiquement prouvée. notamment par le docteur Henri Laborie concernant l'inhibition de l'action et la répression des émotions. Et puis, l'importance du stress, elle est aussi prouvée par le docteur Hans Selye, qui a écrit Le Stress of Life et qui décrit bien le stress comme l'énergie de base de notre fonctionnement, qui est au départ une tension nerveuse, une énergie de vie, mais qui ensuite peut créer des problèmes de connexion, des problèmes de tension, de compulsion, etc. C'est-à-dire que quand elle est bien, lorsqu'elle est normale et naturelle, cette énergie est dans la fluidité, elle est dans le mouvement, et lorsque cette énergie est dysfonctionnelle, en fait, elle va être dans le figement avec des contractions, des tensions, des douleurs, et il va y avoir des effets cocotte-minute, des tensions qui vont amener à des bugs. Voilà l'essentiel sur le schéma de fonctionnement normal, donc avec le pouvoir de bien sentir, de bien réfléchir, de bien agir et de bien se souvenir, et puis avec les dysfonctionnements liés à ça, donc la dissociation, la fausse interprétation, le biais cognitif, la compulsion et le déni. Donc dans le cas de la dépression, de l'addiction et de la perversion, je passe à notre deuxième partie. En fait, dans le cas de la dépression, les symptômes de stress disorder que je vous ai dit, en fait, ils vont avoir une forme un peu spécifique que je vais préciser. Donc, on va commencer par la dépression. La dépression, pour info, c'est un trouble de la vitalité. Donc, foncièrement, c'est un trouble de la non-expression des choses et c'est un trouble du figement des tensions avec les fonctions vitales qui vont être perturbées. Donc, les fonctions vitales, ça va être trouble du sommeil, trouble de l'appétit, trouble de l'envie, trouble de la libido, ce genre de choses. Donc, la personne, en fait, elle va souffrir de caractéristiques en termes de dysfonctionnement qui correspondent, en fait, au stress disorder, mais avec des particularités. Donc, dans la dépression, on va prendre les éléments du stress disorder niveau par niveau, par niveau d'organisation par niveau d'organisation, et puis je vais vous donner les particularités. Dans la dépression, la dissociation, donc le premier point, va se caractériser par un vide intérieur. Ce vide intérieur, vous pouvez le voir sur la carte des émotions du docteur Laurie Nunema. Et sur cette carte des émotions, vous voyez, il y a marqué dépression. Et si vous comparez avec le bonheur ou l'amour, vous allez voir qu'en fait, il y a un vide intérieur. C'est-à-dire que la personne à l'intérieur, elle est frozen, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle est gelée, elle est comme anesthésiée, ou elle est insensibilisée, au sens où elle est coupée d'elle-même. Et donc, il y a une mauvaise perception, ou une mauvaise connexion, ou une mauvaise vitalité. L'énergie, elle est littéralement figée à l'intérieur de la personne. Ça, c'est directement lié à l'inhibition de l'action et à la répression des émotions. Donc la dépression, c'est vraiment un trouble de la vitalité et de l'expression. Dépression, non-expression, je vais dire ça comme ça, pour que ce soit mémotechnique. Ensuite, au niveau du deuxième point, au niveau du pouvoir de bien réfléchir, le biais cognitif. En dépression, il est bien connu, il s'appelle la rumination mentale. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va ruminer mentalement, alors soit avec de l'angoisse, parce qu'elle a du mal à trouver une solution pour s'en sortir, soit elle rumine de l'angoisse, soit elle rumine du ressentiment, de la colère, soit elle rumine de la tristesse, soit en fait elle va se culpabiliser, retourner les choses contre elle, ce qui va amplifier le problème. Donc la rumination mentale, elle est typique de la dépression. Et cette rumination, elle est assez douloureuse, puisqu'en fait, comme il y a un problème de douleur, de stress encaissé, de blessure, et qu'il y a un interdit des émotions, en fait, le processus de digestion émotionnelle est bloqué, et le processus pour ouvrir les yeux sur les blessures du passé, se réveiller, s'en sortir, c'est bloqué. En fait, la personne, elle subit et elle encaisse. Donc, il y a rumination mentale. Sur le plan comportemental, la compulsion, en fait, va être une forme de procrastination. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va perdre sa liberté de s'abstenir, mais de façon, dans une forme passive. C'est-à-dire que la personne. Alors, passive ou agressive, hein, c'est-à-dire que la personne va avoir tendance à se replier, à s'isoler. Quand il y a des gros épisodes de dépression, il peut y avoir un repli sur soi, un retrait social, les personnes sont carrément figées au lit, etc. Et donc là, il va y avoir procrastination avec des périodes donc de retrait, et puis il peut y avoir aussi des périodes d'agitation. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des périodes maniaques, où là, en fait, il va y avoir un effet rebond. C'est-à-dire que la personne va, c'est ce qu'on appelle la bipolarité, c'est-à-dire que la personne va passer d'un pôle passif à un pôle actif, ou un pôle agressif, ou un pôle agité. Et donc là, il va y avoir un effet rebond, c'est-à-dire que la personne va passer du plus au moins de façon disproportionnée ou réactive, avec un effet rebond. Et donc là, il va y avoir donc une compulsion aussi, mais dans l'autre sens. Voilà pour le troisième point, la procrastination. Et puis le quatrième point par rapport à la dépression, c'est le gel de la mémoire. Alors le gel de la mémoire, dans le cadre de la dépression, il est connu, puisqu'en fait on a regardé le cerveau des personnes dépressives, et en fait vous avez au niveau de l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire, vous avez en fait comme une rétractation ou un figement de cette zone qui peut aller jusqu'à 30 à 40% du volume de l'hippocampe. Et donc en fait la personne, elle est littéralement déprimée, au sens où sur le plan de la mémoire des choses, sur le plan physique en fait, c'est-à-dire c'est une réalité physique. La personne en fait, elle est figée, ou bien elle est inhibée, ou bien elle est rétractée en termes de vitalité, de mémoire des choses, de conscience des choses. Donc là, il y a le processus, en fait, il est important de savoir que, bon, déjà, il faut savoir que quand la mémoire est vraiment diminuée comme ça, lorsque la personne est vraiment en souffrance, il faut booster le cerveau avec des neurotransmetteurs pour réactiver, en fait, les capacités du cerveau. Donc déjà, il faut pas hésiter à aller voir son médecin si vous avez des doutes par rapport à la dépression. Et puis ensuite, il faut en fait faire tout un travail de réactivation pour que la personne se remette en route en termes de vitalité, d'expression, et puis si possible de digestion des choses, pour arrêter de ruminer ou de s'isoler dans la douleur. Voilà pour la dépression, j'ai dit l'essentiel. Donc si, je le répète, hein, il y a une réalité médicale, et donc il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin quand il y a vraiment des symptômes de dépression qui sont importants. Sachant que je vous invite plus à vérifier chez le médecin qu'à ne pas vous inquiéter. Je vais dire ça comme ça, si ce que je vous ai dit vous a parlé. Voilà, important d'être bienveillant par rapport à vous. Ensuite, deuxième point par rapport à dépression, addiction et perversion, on va passer à l'addiction. Dans le cas de l'addiction, le dysfonctionnement, en fait, il va se faire donc sur quatre points. La dissociation, en fait, ça va être d'abord une déconnexion de la douleur. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va chercher à fuir sa douleur. Donc elle va se déconnecter intérieurement, et elle va être plutôt dans une quête extérieure de plaisir, comme on verra. Deuxième point par rapport à l'addiction, au niveau des fausses interprétations, des fausses croyances, la personne en fait va être dans des minimisations par rapport aux risques avec les drogues, par rapport à la dépendance. En fait, elle va être dans un marchandage en disant « Mais non, je bois pas, c'est juste de la bière, etc. » Ou bien « Mais non, un apéro tous les jours, c'est pas grave. » Et donc, il va y avoir au niveau mental, en fait, il va y avoir des fausses croyances, des fausses interprétations, du marchandage, de la minimisation des choses. Et il va y avoir donc une certaine illusion par rapport à l'addiction. On verra que c'est lié au problème de la mémoire. Au niveau du comportement, la compulsion dans l'addiction, ça va être la perte de liberté de s'abstenir par rapport au plaisir. C'est-à-dire que la personne, en fait, va être comme shootée au plaisir. Alors, le plaisir, ça peut venir d'un produit, ça peut venir d'obsessions romantiques, ça peut venir du plaisir de jouer aux jeux vidéo. Donc, en fait, il va y avoir une recherche de stimulation externe pour éviter la douleur interne, et puis pour se stimuler dans quelque chose qui est de l'ordre du plaisir ou de la stimulation positive. Je vais dire ça comme ça. Voilà pour la compulsion, perte de liberté de s'abstenir. Et puis au niveau de la mémoire, là en fait l'addiction se caractérise par un désir ou un choix d'oublier. C'est-à-dire qu'en fait, la personne noie son chagrin, comme on dit. Elle est dans une forme de désespoir, de laisser-aller et d'abandon. Donc, dans l'addiction, il y a une forme de perte de bon goût. Alors, j'ai déjà fait une vidéo, un podcast sur la perte de bon goût, le cortex insulaire, le dégoût, les schémas toxiques et l'abus concernant les troubles alimentaires. Mais on retrouve dans les problèmes addictifs cette perte du bon sens et du bon goût, avec se laisser aller dans les schémas toxiques. Et cet abandon émotionnel ou moral, où en fait où on se laisse couler sans se réveiller, sans affronter le problème de la douleur qui nous fait qu'on va se noyer dans le plaisir ou dans une fuite en avant dans la drogue ou dans des dépendances à des jeux, des activités ou bien même des personnes si on est dans de la dépendance affective ou de la dépendance sexuelle. Voilà, on va se noyer dans des choses où il y a une fuite en avant dans le plaisir et puis un déni de la douleur et de la blessure personnelle. Voilà pour l'addiction. Troisième point par rapport à ce podcast, dernier point, ça va être la perversion. Alors, par rapport à la perversion, là, le dysfonctionnement, il va se manifester par une certaine insensibilité ou quelque chose qui est de l'ordre de l'insensé, au sens où il y a plus de perception des cinq sens concernant la dissociation. C'est-à-dire que la personne, en fait, est comme inconsciente ou bien déconnectée en termes de perception des cinq sens. Donc la dissociation, là, c'est une certaine forme de froideur. La personne est calculatrice, elle est froide, il n'y a plus de chaleur intérieure. La perversion, en fait, c'est une forme de dépression en termes de sensibilité, c'est-à-dire qu'en fait il y a une mauvaise perception intérieure, il y a un vide intérieur. Dans le film American Psycho, si vous regardez le début, vous allez voir que en fait la personne dit qu'elle ne sent rien à l'intérieur et c'est littéralement le cas, c'est-à-dire qu'en fait la personne elle est insensible, elle est froide, elle est calculatrice et en termes de sens et de cinq sens, elle est littéralement insensée. Voilà, donc il y a une certaine folie qui est liée à une perte de conscience lié au contact des cinq sens. Deuxième point de la perversion, ça va être au niveau de l'inversion, c'est-à-dire que au niveau du cortex insulaire, le dégoût va faire que la personne est carrément à l'envers, avec des contradictions et une logique qui est froide, calculatrice, qui est dans une vision à court terme souvent des choses et dans une absence de prise de conscience des choses dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a un problème de mémoire, la personne en fait ne se rend pas compte de l'impact des choses à long terme. Donc par exemple, vous allez avoir des gens qui vont déclarer la guerre, qui vont être dans la violence, qui vont être dans la destructivité, la toxicité, sans se rendre compte que ça n'a pas de sens à long terme, en termes de solutions ou d'options possibles, puisque c'est littéralement des destructeurs. Voilà pour le deuxième biais cogni de le deux, la deuxième dimension. La deuxième dimension de la perversion, donc qui est l'inversion des choses en termes de bon sens, puisque il y a un bug émotionnel, il y a un gel émotionnel, il y a l'impact du dégoût, il y a un manque de sentiment qui fait que la personne en fait va être dans quelque chose qui est inhumain, où la personne n'a plus honte, où la personne ne se rend plus compte de ce qui est de l'ordre des schémas toxiques, puisqu'il y a une déconnexion du dégoût. Et donc là, on va être dans un truc qui est complètement à l'envers. On commence dans nos sociétés à repérer par rapport à ça les contradictions, puisqu'en fait, chez les personnes qui sont les moins habiles à cacher leur dysfonctionnement à ce niveau-là, en fait, on repère assez facilement les contradictions ou la perte du bon sens à long terme. Sachant que la personne va vous vendre en fait des choses qui vont être de l'ordre de l'intérêt, du calcul, donc un intérêt pour l'argent, la richesse, etc., en méprisant le monde intérieur, les sentiments, etc. Troisième dimension de la perversion, ça va être la pulsion, au niveau de la compulsion. C'est-à-dire que là, la perte de liberté de s'abstenir, le compulsive behavior, ça va être de l'ordre de la pulsion sadique, de la violence destructrice, des compulsions sexuelles, ou des pulsions comportementales. Donc la personne en fait ne peut pas s'empêcher, puisque le bug de stress en fait la fait carrément pulser, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. Donc c'est là que si vous regardez les faits qu'on peut souvent avoir, la personne va pas pouvoir s'empêcher de répéter des comportements pervers, sadiques, etc. Parce qu'en fait, elle est littéralement malade, passive et abusive. Dernier point par rapport à la perversion, c'est le mépris des sentiments, le mépris des blessures, le déni de l'enfance, le déni des réalités de la famille. Et donc en fait, la personne va être coupée de son passé. Elle va avoir tendance aussi, si vous regardez, par exemple dans l'histoire des dictateurs, vous allez voir que la personne a tendance à détruire tout ce qui est trace de son passé, tout ce qui est trace de sa famille. Et donc il y a un déni, un mépris, avec la volonté de se couper du passé et d'en avoir rien à faire du passé. Par rapport à ça, il y a une fausse croyance totale par rapport à la mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une tendance à croire que le passé, c'est le passé, et que la mémoire, on s'en fout, les blessures du passé, on s'en fout. Ce qui est complètement faux scientifiquement, puisque la mémoire, c'est l'acquisition des expériences de vie. Et donc, nous sommes notre histoire, comme disait James Baldwin. Et si on nie notre histoire, on ne va faire qu'une chose, c'est soit la répéter sur des autres de façon injuste, soit on va faire des histoires de façon injuste également. James Baldwin disait, nous portons notre histoire, et si nous le nions, nous sommes littéralement des criminels. Voilà, il dénonçait la pauvreté émotionnelle et il dénonçait le mépris de la vie intérieure dans la société de consommation américaine. Donc il était visionnaire, James Baldwin, sur le fait que la société de consommation ne nous apporte pas la satisfaction, puisqu'en fait elle est dans le mépris de la vie intérieure et elle est dans une grande pauvreté émotionnelle. Voilà, j'espère que ce podcast n'a pas été trop long, qu'il vous a passionné ou intéressé et je vous dis à bientôt par rapport au happy power et au stress disorder. Bon courage à tous dans votre travail sur le programme en 7 étapes.